Minute. Willette. En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
On le savait, mais on le savait pas. En fait, on le savait, mais on voulait pas le savoir. T'sais, nos frontières, c'est étanche, ça.
On a quelques soupçons, hein?
Bien, souvent, quand on parle de nos frontières, on pense tout de suite à cette fameuse frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis qui, pendant longtemps, n'ont pas fait jaser ben. Parce que c'est les Américains, c'est nos amis. Puis bon, hey, pendant longtemps, je sais pas, là, je veux dire, on se souvient, là, peut-être qu'on a oublié, on passait les frontières, pas de passeport, là.
Oui, hey, c'est vrai.
Avant,
c'est
2001.
Le permis de
pièce d'identité, oui. N'importe quoi, go, vas-y, bonne année, let's go, tu reviendras quand tu voudras. Ben non, évidemment, il y avait des règles, mais c'était très facile. Puis cette frontière-là, on la regardait du coin de l'œil, mais tu sais, bon, c'était pas si grave. Mais c'est tout le reste, c'est tout le reste. C'est les gens qui arrivent en avion, c'est les gens qui débarquent chez nous. L'Agence de services frontaliers du Canada gère beaucoup de monde. Tu sais, il y a des histoires. Oui, il y a 33 332, très exactement présentement, non-citoyens canadiens qui sont au large dans notre pays. Des gens qui sont pas nés ici, ils n'ont pas de citoyenneté ici, ils sont sous mandat d'expulsion. Là-dedans, il y a un paquet des centaines de gens qui ont des gros casiers criminels, de viols, d'agressions, tentatives de meurtre, de ci, de ça. On ne sait pas son où. Et si ce n'était que de ça qu'on parle, c'est tel quel. Mais quand on réalise, tu sais, l'histoire de la semaine dernière, ou sais-tu, la semaine dernière ou il y a une semaine et demie, l'histoire du haut placé, ancien haut placé,
oui,
des gardiens de la révolution iranienne.
Ouais, c'est gênant, ça.
L'organe suprême iranien qui avait été accepté. On lui avait donné la permission de s'envoler pour le Canada, mais refoulé en arrivant. Tu sais, il y a des histoires où on se demande qu'est-ce qui se passe à l'interne. Puis ça faisait un petit moment que j'avais dit à Max, faudrait reparler à cette personne qui est un lanceur d'alerte à qui on a déjà parlé. Puis le gars a eu beaucoup de troubles parce qu'il avait dénoncé justement des grosses irrégularités au niveau, entre autres, des passeports. Donc, il est devenu de facto un lanceur d'alerte au sein de l'Agence des services frontaliers du Canada. Et à l'époque, il nous avait expliqué qu'il était quand même assez boulié. Là, ça brassait beaucoup dans son cas. Bien, savez-vous quoi? Il a accepté de nous reparler. Parlons-en de ce cas particulier avec notre lanceur d'alerte favori de l'Agence de services frontaliers du Canada, Luc Sabourin, qui est là. Monsieur Sabourin, bonjour. Bienvenue dans Ouellette en direct.
Bonjour, monsieur. Plaisir.
Ben, premièrement, avant de tomber dans le sujet, j'aimerais prendre des nouvelles. Comment ça va, vous?
ça va bien. Écoutez, je travaille encore en arrière-plan avec des députés, ces choses-là. Là, on va me consulter pour, malheureusement, pour voir s'ils ont leur juste sur ce qui se passe vraiment à l'interne. Puis je trouve ça très malheureux qu'on en ait rendu là.
Mais au sein de la machine, là, parce que je sais que vous étiez intimidé, on vous a retardé vos paiements, il y a eu quand même beaucoup de troubles qui ont suivi ces alertes-là. Vous étiez même monté dans le bureau du ministre. Comment ça va, la machine? Est-ce qu'elle est encore en mode agressive avec vous?
Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan. Je ne peux pas aller dans trop de les détails, mais je vous dirais que faut comprendre là, que moi, j'étais pas un lanceur d'alerte publique. Là, j'ai utilisé les processus à l'interne.
Ouais.
Et c'est à partir de là qu'on a compris qui j'étais, puis ce que je dévoilais. Puis ça a créé des malaises avec des personnes en position d'autorité à l'intérieur de l'établissement, ce qui allait à l'encontre du système en place, qui était le internal disclosure, qu'on dit les systèmes de divulgation interne, qui devaient nous protéger pour permettre au ministère ou au gouvernement de prendre action sur des enjeux d'intérêt public ou de sécurité nationale. Alors, malheureusement, j'ai dû faire face à des enjeux très, très graves. Puis même à ce jour, on n'avait pas pu dévoiler tout ce qui se passait en chambre parlementaire pour donner une opportunité à un parti politique, peu importe qui il était, d'agir, d'intervenir, puis demander des enquêtes pour éviter, je vous dirais, là, la grogne publique. Malheureusement, ça s'est jamais concrétisé. Alors, J'ai encore une autre rencontre là, en Chambre parlementaire là, dans les prochaines semaines avec des députés sur des enjeux, mais je vous dirais que c'est très décevant de voir que les professionnels, incluant moi-même, quand on fait face à des enjeux d'intérêt public, de sécurité nationale, qu'on n'a pas accès à nos députés pour dans un temps opportun, vous savez, pour qu'ils puissent prendre action pour éviter que ça devienne trop grave.
Est-ce que, puis on le sait qu'il y a des gens mal intentionnés partout, là. Il y en a dans le privé, il y en a dans le public, il y en a au gouvernement, il y en a des hauts placés, mais à quel point? C'est là où des fois on se bloque nous-mêmes, on dirait qu'on s'auto-complotise, là. Je ne sais pas si je l'exprime bien, on s'auto-dit « ben non, ça se peut pas, ça, il ne peut pas avoir des gens si haut placés qui ont de mauvaises intentions ». Mais le cas précis dont on parle, là, Méditage, le monsieur des gardiens de la Révolution qui a obtenu un permis de séjour temporaire, il y a toujours bien quelqu'un, à quelque part, par une force obscure quelconque, qui a décidé d'y mettre la tag puis de dire « Oui, monsieur, vous pouvez venir au Canada ». C'est comme, tu sais, comment ça se peut, ça?
Je vais vous dire, on va aborder deux volets. Je vais vous dire que c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans le filtrage. On peut en reparler après, là, vite fait. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça devient de l'information publique parce qu'on a des journalistes indépendants. Vous voyez? Avant, c'était contrôlé. Le public, vous, les gens à l'externe, n'étaient pas au courant de ces choses-là. Puis nous, on était pris à l'intérieur avec de la grogne. OK? Puis des montées de pression sanguine parce qu'on fait notre travail. Puis il y a quelqu'un qui, pour l'intérêt politique et non l'intérêt public, va intervenir à l'encontre de nos recommandations. Ça, c'est très malheureux. Puis encore là, je me répète, on ne peut pas, on a personne à aller cogner à la porte pour dire, regarde, là, moi, je fais mon travail, mais il se passe ça. Est-ce que tu en es au courant? Puis ça, c'est quelque chose que j'ai abordé avec les députés. J'ai demandé qu'on change les façons de faire, qu'on ait, nous, les professionnels, un accès assez rapide à des députés quand ça va mal à l'intérieur de la boîte. Peu importe, qu'on reste tout neutre politiquement, on parle d'intérêt public.
Mais ce que vous voulez, c'est que le permis qu'on a donné, les gens étaient au courant. Il y a quelqu'un de haut placé qui a accepté ça. Peu importe la raison.
Oui, écoute, comme je te dis, là, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste plus public. Moi, je te dirais, la question centrale, là, à demeure, c'est quel agent? Est-ce que c'est à l'intérieur du Canada? À l'extérieur du Canada? Quel bureau l'a émis, quel niveau hiérarchique, quelle autorité administrative a approuvé le permis. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une bonne idée, OK, à cause de ce que j'ai vu dans le passé. Si la pression continue publique et la pression des partis de l'opposition continue, en quelque part, il va y avoir un bouc émissaire. Il y a quelqu'un qui va se faire lancer en dessous de l'autobus. À partir de là, celui qui va prendre le blâme, bien lui, il va évidemment faire face à tous ses cauchemars, comme moi j'ai fait face. Puis là, il va commencer à nommer des noms. C'est là que ça va devenir un peu plus clair comme portrait, je vous dirais, de ce qui s'est vraiment passé. Puis ça, c'est malheureux, c'est le langage-là que j'utilise, mais c'est la réalité des choses à l'intérieur de la machine gouvernementale présentement.
On était tout près quand même de laisser rentrer carrément quelqu'un qui a appartenu, en tout cas, à un groupe terroriste reconnu au Canada. C'est pas rien, tu sais, je veux dire. Puis heureusement que les agents sur place à Pearson, à l'aéroport à Toronto, sont intervenus. Comment ça se fait que l'ordre d'en haut, lorsqu'on dit à cette personne-là, vous avez permis de séjour temporaire, comment ça se fait que ça a été bloqué en bas? Il y a quelqu'un clairement qui n'a pas suivi une consigne ou c'est.
Il peut avoir plusieurs raisons. Évidemment, comme je vous expliquais tantôt, si la demande a été faite outre-mer, est-ce que la personne outre-mer a fourni l'information? Est-ce qu'elle a fourni l'information pour le deuxième volet de sécurité à la SFC ou au Service de renseignement canadien pour faire les vérifications? Une fois que lui était en possession du nom de la personne, ses antécédents. Si ça n'a pas été fait, ça a été fait par oubli, par surcharge de travail, ou ça a été fait intentionnellement, il y a des questions à poser là. Parce que là, ce qui est arrivé, le deuxième filet, qui devait être les services de renseignement canadiens ou la SFC ou la GRC, n'a pas été informé de ça. Le troisième filet qu'on a en place, c'est quand les gens vont prendre l'avion qui arrive d'une certaine destination, les agents de services frontaliers en sol canadien sont déjà au courant qui est dans l'avion. Ils font des vérifications avant que la personne atterrisse. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a un agent qui a fait la vérification, d'après ce que j'ai pu comprendre, avec le troisième filet de sécurité, puis a noté que cette personne-là était inadmissible. Puis à partir de là, c'est là que tout a été exposé. Là.
Est-ce que c'est... Puis vous l'avez dit un peu tantôt que c'était un peu hors contrôle, là, parce que si je décolle un peu de l'histoire de cette personne-là précise puis que je reviens sur l'info du départ où on apprend qu'il y a plus de 33 000 personnes au Canada en liberté, on ne sait pas sont où. Ils sont sous ordre d'expulsion, c'est des non-citoyens. Il y en a qui ont des dossiers criminels. Clairement... soit on manque de staff ou soit il y a des gens qui ne suivent pas les consignes parce que, je veux dire, c'est... Hey, moi, on s'est fait conter une histoire il y a peut-être deux semaines de quelqu'un qui était... tu te souviens, Pat, mais je me souviens pas c'était qui le nom de notre invité, mais le gars sort de prison. Le gars sort de prison avec un avis d'expulsion, mais il laisse sortir. Personne n'est là pour le cueillir. Le gars a le temps de prendre la fuite, poup, parti dans la forêt, on ne l'a plus jamais revu. T'sais, est-ce qu'on manque de personnel ou on manque de rigueur?
Les ressources sont pas là. Les ressources sont pas là. Si vous écoutez, moi, je peux vous confirmer que quand j'étais en affectation sur le terrain, en développement avec les agents, les ressources sont pas là. On est plus que étiré au maximum. Il y a plus de place sur l'élastique, là. Okay? Puis l'argent est pas... Ce qu'on dit au gouvernement, l'argent qu'on donne à l'agent de services frontaliers, puis comment l'argent est géré après, c'est deux choses. Ça, je peux vous l'assurer. Je l'ai même dit, je suis prêt à témoigner de ça en Chambre parlementaire. Posez-vous la question pourquoi je n'ai jamais été rappelé à témoigner en Chambre parlementaire. Ouais. Posez-vous la question.
Okay? Vraiment, il y a trop d'affaires à déterrer, là.
C'est ça. Nos agents, là, quand tu regardes un petit poste d'Ottawa qui a peut-être 8 agents, là, je lance des chiffres comme ça, on parle dans 2006, OK? Tu as 8 agents. T'en as sur 8, t'en as 5 qui doivent faire des raccompagnements jusqu'en Europe, au Japon. Ils sont partis 4-5 jours, sont 3 personnes pour escorter une personne à l'extérieur. Il en reste combien à Ottawa?
5.
Ouais.
C'est ça.
Il en reste plus bien, là.
Il ne reste plus grand-chose. Fait que là, quand tu reçois des appels le soir pour te présenter d'un poste de police, pour aller ramasser quelqu'un qui est sans statut, pas de pièce d'identité, tu passes 3-4 heures là. En bout de ligne, par le temps que tu as fini tes rapports, t'as tout ça, il ne reste plus de gens. Là, tu avais le bureau de Gatineau qui a fermé, le bureau de la ville de Gatineau qui était transféré à Ottawa. Tu avais 2 agents qui couvraient le territoire jusqu'à Val-d'Or. OK?
Manque de monde un peu.
Oui, bien, on n'a pas les ressources en place. Puis ça, c'est partout. C'est partout. Fait que ce que le gouvernement dit qu'il fait, qu'il donne des sous, puis ce qu'il promet, ça ne reflète pas vraiment la réalité des choses. C'est malheureux à dire. Puis les chiffres que vous avez dit tantôt, 33 000 personnes, moi, je vous dirais que, je pense que je vous l'avais mentionné, quand j'ai parti en 2016, en 2012, on avait déjà 40-quelques mille mandats d'émis. Est-ce qu'ils ont attrapé tous ces gens-là puis ont fait des renvois? Ça, c'est ceux qu'on connaît présentement. Oubliez-les pas. Regardez ce qui se passe entre la frontière des États-Unis puis la ville, puis Québec. La quantité de gens qui passent illégalement la nuit, que Rebel News a fait un reportage, Mme Alexa Lavoie, OK? La quantité de gens qui passent, qui disparaissent dans la société. Moi, je vais vous faire un commentaire sur ça, OK? Quand on regarde, on va rester poli, respectueux envers les gens qui viennent ici pour une meilleure vie, OK? Mais quand on regarde présentement, tous les gens qui atterrissent et qui reçoivent toutes les subventions qui sont permises pour leur donner une qualité de vie jusqu'à temps que leur dossier soit établi. On parle de plusieurs milliers de dollars. Ouais. Les gens qui passent, font un choix de ne pas se présenter à la frontière puis réclamer le statut de revendicateur puis qui disparaissent dans la société, vous devriez vous inquiéter de ces gens-là.
Ben oui.
Pourquoi ils ne veulent pas d'avoir d'argent? Pourquoi ils ne veulent pas être hébergés?
Parce qu'ils ne veulent pas être identifiés.
Donc, il y en a plus que ça. 33 000, c'est un chiffre complètement...
Moi, je l'ai dit ouvertement en Chambre parlementaire que les chiffres étaient plus gros que ça. OK? Puis malheureusement... si vous vous souvenez bien, quand j'ai parlé du vol de 400 000 passeports, il y avait eu 4 vols de crimes organisés à l'étranger. Ça concordait avec la période 2014-2015, puis on n'ira pas dans les théories de complot, là, mais OK. À cette époque-là, j'avais reçu un appel du Bureau de la mesure de performance des services frontaliers qui me demandait pourquoi que il y avait des chiffres qui étaient inférieurs pour la quantité de documents perdus volés qu'on avait rapportés pour une certaine période. J'ai dit, c'est impossible. Ben, il dit, on nous a rapporté peut-être 5 000. Je dis, non, c'est 18 000. J'ai dit, qui t'a rapporté ça? Il m'a donné le nom de la personne. J'ai confronté la personne, la gestionnaire. Ah, ben, ça doit être une erreur. Ça s'est reproduit deux fois. Pourquoi est-ce qu'on essayait de minimiser le nombre de chiffres qui étaient rapportés à nos parlementaires? Quelle est l'intention derrière ça? Il y a des comptes, il y a quelqu'un qui a des comptes à rendre. Mmh. On parle de, le total, là, à cette époque-là, 432 638 passeports volés en 11 mois à l'étranger. Wow. Okay? C'est des endroits ciblés par du crime organisé. Ça a été établi. Okay? Puis, il y a quelqu'un à l'intérieur. Moi, j'ai informé le Bloc québécois de ça. J'avais informé les conservateurs à l'époque de ça. Quelqu'un qui a essayé de minimiser les chiffres. Ce qui revient à dire ce que je disais. À l'intérieur de la boîte, à l'intérieur de nos institutions gouvernementales, il faut enlever le droit à tous les ministères, les agences, de s'auto-enquêter.
Ben oui.
Parce que quand on fait des rapports, si vous regardez mes témoignages sur YouTube, en chambre parlementaire avec M. Gordon, je le dis ouvertement. Les problèmes que j'ai rencontrés en tant que professionnel, quand j'ai soumis un rapport sur de la criminalité à l'interne, le rapport finit sur le bureau du président, puis le rapport qui est 3 pouces d'épais finit par 1 pouce. Puis en plus de ça, c'est si je mentionne des noms de gens à l'intérieur de la boîte, bon bien, qu'est-ce que vous pensez qui arrive?
On a un sérieux problème. On a un sérieux problème, puis je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup.
Puis non, écoutez, les médias indépendants, incluant vous, sont la raison pourquoi toutes ces choses-là sortent. Ce n'est pas nos médias conventionnels. Faites-moi confiance, OK? Si vous regardez, là, dans les derniers 2 ans, après ma sortie publique en chambre parlementaire, après que j'ai parlé, moi, j'ai vécu l'enfer, puis à ce jour, il n'y a pas eu de résolution dans mon dossier, puis 3 autres agents qui étaient avec moi. Je n'étais pas seul, là. Leurs noms n'ont pas été mentionnés. On est 4 qui s'est présentés dans les bureaux des députés. Les 4, on s'est retrouvés sans emploi pour avoir marché en ligne droite. 2 d'entre nous, nos vies ont été menacées, puis nos têtes ont été mises à prix. C'est pas terminé pour moi et une autre personne. Okay? Il y a une personne, un autre agent ne peut même pas mettre les pieds à Haïti présentement. Ça vous donne une idée. Nos députés sont au courant de ça. Si vous regardez, le journal de Citizen a publié un article il n'y a pas longtemps à Immigration. 106 employés ont été réprimandés. Il faut regarder les détails des réprimandes. Puis au service frontalier pour l'année 2024-2025, 259 employés réprimandés. Il faut regarder le type de réprimande puis les raisons pourquoi. Ça vient confirmer ce que j'ai dit, ce que j'explique. Puis à ce jour, il n'y a pas une grande volonté politique de nous donner les outils nécessaires. Le projet de loi C-290 que moi j'ai aidé à écrire puis à pousser pour protéger les personnes comme moi, les professionnels à l'intérieur, a été abandonné au Sénat en 2e lecture. C'est pas terminé. Il va d'autres révélations qui vont sortir sur ça dans le futur, dans les médias. Portez attention, vous allez voir. Il n'y a pas de volonté politique.
Monsieur Sabourin, faites attention à vous. Continuez de faire ce que vous faites, puis au plaisir de se reparler. J'espère qu'on va se reparler bientôt.
Ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole au nom de ceux qui ne peuvent pas parler.
Bonne journée, merci.
Vous aussi. Au revoir. Plaisir. Bye.
Luc Sabourin, donc ce lanceur d'alerte qui a travaillé au sein de l'Agence de services frontaliers du Canada. Y en a-tu vu des affaires, lui?
Oui, on a vu. Puis là-dedans, là, c'est parce que le temps roule, là, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de demandeurs d'asile qui ont obtenu un statut de réfugié sans jamais même avoir rencontré un seul agent.
Ben, c'est capoté. Hey, c'est sérieusement, c'est un free-for-all épouvantable.
Donc,
c'est le 33 000, comme il dit. Puis il a raison. Ah, là,
n'importe
il
qui
dit ça, c'est 33 000, c'est ce qu'on a fiché.
Ouais.
Le gars qui est rentré dans la nuit, lui, il est pas là. On le sait pas. Ça peut être 100 000.
Ah,
on sait pas.
Ça me semble être du très bon monde.
Ah oui, c'est tout du bon monde, ça. Viens, viens ici parce que c'est du bon monde.
Ouais. Ouellet, en direct.
En direct. On revient dans pas long.
Radio.